Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Et bonsoir tout le monde, ou plutôt bonjour tout le monde. Il est 18h sur Prune et fantastique, il fait encore jour. Nous avons changé d'heure ce week-end, mais encore une fois, les fours, les micro-ondes et les réveils sont les victimes collatérales de ce système. Quelque peu has-been, non ? Une pensée donc à tout l'électroménager français qui n'a vraiment rien demandé. Chers auditeurs et chères auditrices, au cas où vous seriez bloqués dans la faille spatio-temporelle, nous sommes donc le lundi 27 mars 2023. Ou l'an 1523 si vous êtes Christine Boutin, ou en 2123 si vous êtes Lady Gaga. Alors oui, l'heure a changé, mais pas nous. Et comme tous les lundis, nous avons préparé une émission aux petits oignons rouges, mes préférés. Ce soir dans les studios, nous recevons des mélomanes qui donnent le la aux femmes. Tout d'abord, il y a François qui travaille au Ferrailleur, le fameux club de concert à Nantes. Il est accompagné de Marine, qui, je ne sais plus ton statut exactement.
Alors, je suis co-organisatrice sur l'événement More Women on Stage.
Excellent.
Et bénévole pour l'association Tracas.
Perfecto. C'est exactement ça dont on va parler. Ça va se passer le 15 et 16 avril prochain au Ferrailleur. Bonsoir à vous deux. Vous nous donnerez donc plus de détails d'ici quelques instants. Puis la DJ Paloma Colombe sera avec nous en deuxième partie. Cet oiseau de nuit a des projets plein la tête et nous allons avoir la chance d'en discuter avec elle. Raphaël de la salle de spectacle nantaise Trampo sera également là pour en parler, pour parler de leur collab musical. Alors, les tic-tac des interviews sont là. Lisa et Taïsia, salut les copines. Les démons de minuit, Enzo et Camilia sont également là pour leur chronique. Salut les copaines. Et enfin, rien de cela ne serait possible sans notre méridien de Greenwich à nous, le duo Lola et Kellig à la régie. Salut vous. Alors, wow, par Chronos et Belenos, il est grand temps que cette émission commence. Taïsia, à toi de jouer pour le Zoom Actu.
Curiosité. Le Zoom Actu.
Et oui, aujourd'hui, donc pour le Zoom Actu, on reçoit bien François et Marine, qu'on vient de présenter. Rebonjour.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec Agathe, Sophie et Elodie, portée par l'association Tracas, et vous proposez la première édition nantaise de More Women on Stage and Backstage Festival, qui se tiendra donc au Ferrailleur. C'est un festival qui met à l'honneur la présence des femmes et des minorités de genre, autant à l'avant de la scène que dans ses coulisses. Et je voulais savoir si vous connaissiez l'histoire de ce festival et en quoi, comment cet événement est né, comment il s'est mis en place aujourd'hui.
Oui, alors déjà, salut. Tout à fait, l'événement vient de l'idée de Lola Frichet, qui est bassiste au sein du groupe Pogo Car Crash Control, un groupe parisien. En 2021, elle arrive dans un festival où elle se rend compte qu'elle est la seule femme qui est programmée. Donc elle a cette idée de slogan. Elle va chercher du gaffeur pour un petit clin d'œil aussi aux femmes de la technique. Et elle inscrit au dos de sa basse ce mot, ce slogan, « More women on stage ». Depuis, l'idée c'était de faire des petits stickers, se coller un peu à l'arrache dans les salles de spectacle pour que les femmes se sentent un petit peu moins seules. Mais c'est une révolution qui a pris de l'ampleur. Il y a eu un écho incroyable sur ce thème, puisqu'on s'est rendu compte que c'était pas seulement un cri, que c'était vraiment un enjeu de nos scènes pour plus d'égalité et pour plus d'équité, surtout. Donc il y a eu un premier événement l'année dernière à l'Olympique Café à Paris, justement, qui était sous l'étiquette More Women on Stage, le premier, qui a été sold out, avec plus de 400 festivaliers et festivalières. Et aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une tournée More Women on Tour que notre festival à nous s'inscrit.
Ça fait longtemps qu'on voulait, avec l'association Tracas, monter un événement autour de l'inclusion et sur ce sujet-là. Donc on a contacté Lola pour lui proposer d'organiser la version nantaise en fait, du festival, et elle a accepté. Et voilà, c'est dans 3 semaines maintenant, on a hâte.
Génial. Et cette association Tracasse, justement, elle porte un peu quoi comme projet ?
Alors, l'association Tracasse, elle a été montée pendant le confinement, pendant le Covid, en fait, par une partie des gens qui travaillent au ferrailleur et un certain nombre de musiciennes, de musiciens, de créateurs et créatrices pour, à la base, porter des projets pendant la période de Covid. On avait fait notamment l'atelier du ferrailleur. Et le but, c'est que l'association continue de vivre. On fait des résidences, on fait de l'accompagnement artistique, on fait des ateliers de communication, de production, et on produit aussi des événements, un festival de hardcore comme l'Eurofest par exemple, et la première édition du festival More Women on Stage.
Et vous, chacun respectivement, quels sont vos rôles dans cet événement qui arrive prochainement ?
Alors moi, je travaille sur la communication digitale autour de l'événement et du suivi associatif, puisqu'on s'est entouré de plusieurs associations, notamment Consentis et Ici C'est Cool, qui font de la prévention, consentement, sécurité en milieu festif, et NOSIG, qui est l'association LGBTQ+, de Nantes. Donc je fais tout ce petit boulot-là.
Voilà, et moi je fais ce qu'on appelle la gestion de projet, c'est que je chapeaute un peu tous les points, et comme tu l'as dit en préambule, on s'est surtout entouré de pas mal de monde, parce que c'est très délicat de faire ça tout seul.
Ça fait du monde et ça est tant mieux. Et donc, est-ce qu'on peut parler un peu des styles musicaux qu'on pourra retrouver pendant l'événement ?
Oui, on a voulu faire une couleur un peu pop-rock qui soit quand même relativement accessible. Donc on aura trois groupes, Middle Child qui est un groupe nantais d'indie folk, First Draft qui est un duo plutôt post-rock de Tours, et Madame qui a une couleur un peu plus punky tache qui nous vient de Toulouse. Donc ça c'est la partie payante, on est sur un prix de 12,50€ en pré-vente qui est un petit prix pour nous, en tout cas on voulait rester sur quelque chose d'accessible. Et cette soirée elle sera suivie à partir de 23h45 par une soirée électro 100% gratuite et 100% gérée par des DJ féminines. Et le petit plus dans cette histoire, c'est que dans cet after, il y aura un show drag queen et un défilé de créatrices.
Ah, oh, excellent.
Ça, c'est pour... Exactement,
la bakery. On les a reçues il y a quelques temps.
Elles sont géniales. On les embrasse. Et puis, on en parlera peut-être après, mais le dimanche, il y a aussi une journée gratuite avec une table ronde et avec des masterclass.
Oui, justement, j'allais y venir. Je voulais vous demander les grandes lignes en fonction des jours, les horaires et justement... qu'est-ce qu'il y a comme sujet abordé en table ronde ? Il y a quelques interventions qui sont faites par certains acteurs.
C'est ça, effectivement. Alors donc, Marine le disait, donc, des concerts le samedi, c'est la seule partie payante du festival, comme tu le disais, après l'after avec la Team Bakery le samedi. Et donc le dimanche, une table ronde avec comme titre « Femmes dans la musique, comment changer de disque ?» avec la volonté d'essayer d'apporter, de trouver, de réfléchir à des solutions, de montrer aussi des profils inspirants pour les jeunes filles et pas que. Et deux masterclass, donc Cécile Lacharme, fantastique violoncelliste nantaise, et qui n'évolue pas que dans le style classique, parce qu'elle a des pédales d'effet, elle a des distorsions, elle fait jouer avec des artistes folk, rock. Et puis on a la chance d'avoir Lola Frichel, la créatrice du mouvement, bassiste de Pogo, comme tu le disais Marine tout à l'heure, qui fera son masterclass de basse. Tout ça c'est gratuit, et comme on le disait, voilà, l'idée c'est l'accessibilité en tout cas à l'événement, et qui était très important pour nous.
Le dimanche sera à partir de 15h.
Ok. Et donc c'est un festival qui met vraiment en avant les femmes, les minorités de genre sur scène. Comment s'est créée la programmation ? Comment vous avez par quel réseau ? Comment on trouve toutes ces artistes ?
Déjà, moi j'ai travaillé avec le groupe First Draft à Tours. Donc je les ai naturellement proposés puisque c'est une batteuse-chanteuse qui est hyper impressionnante sur scène. Donc j'ai proposé naturellement ce premier groupe-là.
Le placement ?
Ouais, c'est ça.
Middle Child, c'est des habitués du ferrailleur, on les connaît très très bien. Il faut dire que Lola nous a donné une consigne uniquement, entre guillemets, sur la programmation, c'était à minima la parité dans les groupes sur scène. Hein. Donc ce qui est le cas effectivement, voire même un petit peu plus. Et puis Madame, trio punk rock toulousain, donc c'est trois nanas sur scène. Et effectivement, on ne voulait pas aller sur quelque chose de trop métal, de trop lourd, etc. Et comme le disait Marine, voilà, plutôt... pop, rock, post-rock, mélo, c'était un petit peu l'idée de la programmation, sans parler bien sûr de l'After Bakery, qui est plutôt voilà, techno quoi.
Génial. Et ce festival, c'est More Women on Stage and Backstage. Qu'est-ce que c'est un peu ? Est-ce qu'on peut expliquer un peu déjà, pour la base, qu'est-ce que c'est que les métiers des coulisses de ce genre d'événement?
Alors, on pense très vite aux techniciennes, que ce soit les techniciennes son, lumière et la régie. Mais il y a également tous les métiers qui sont à côté, les métiers de la tournée, et des médias, des attachés de presse, etc. En fait, des directrices même de labels. Enfin, vraiment, il y a tout un cosmos, en fait, dans l'industrie de la musique live. Et c'est aussi pour ça qu'on veut les mettre en avant, ces femmes-là. On voit bien dans les stats qu'elles sont complètement sous-représentées. Aujourd'hui, un intermittent sur trois est une intermittente moins bien payée. Évidemment, dois-je encore le mentionner ?
Logique.
Elle voudrait être bien payée en plus. Donc il y a cette envie en fait de parler de tous ces métiers-là. Si on fait ce festival aujourd'hui, c'est pour plaider en faveur d'une meilleure représentativité et d'une meilleure considération des femmes dans l'industrie de la musique live. Donc on veut mettre les femmes sur le devant de la scène, donc les artistes, mais également tous ces métiers-là. Et puis, ça nous permet d'aller sur un autre tableau qui est d'encourager, de promouvoir la création artistique féminine, également de recueillir la parole de rôle modèle féminin dans ce secteur musical actuel, puisqu'on pense que c'est aussi très important.
Et d'ailleurs, c'est pas uniquement le festival ce qu'on fait, parce que dans cette idée-là, on a voulu faire sur toute l'année une quinzaine de portraits, portraits vidéo, portraits écrits et un podcast aussi avec Sun, notamment le podcast avec Grabuge les articles et avec In Bloom les vidéos. L'idée, c'est que sur toute l'année, on puisse proposer des profils inspirants autour de ces métiers-là et que ça ne soit pas juste pendant deux jours au mois d'avril qu'on parle de ce sujet-là. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Tracas et sur nos réseaux sociaux. Il y en a trois qui sont déjà sortis et il y en a encore pas mal qui vont sortir par la suite.
Oui, parce que comme disaient Julie et Lorraine du collectif Raymond qu'on a reçu en podcast, on n'est pas des invités. On n'a pas une date.
On les a.
On est des pervers.
Si on les a invités. J'adore cette belle famille.
On les embrasse.
Crossover.
Et est-ce que... Non, ce festival a pour origine le mouvement More Women on Stage, qui fut lancée en 2021 par Lola Frichet, que tu évoquais, Marine, qui, elle, est bassiste. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur grâce à des événements tels que prochainement au Ferrailleurs. Est-ce que des événements qui sont des mises en avant importantes pour les femmes et pour les minorités de ce genre se retrouvent ailleurs? Du coup, on vient de parler de Raymond. Vous voyez beaucoup d'événements comme ça se créer et vous envisagez d'en faire d'autres, peut-être ?
Alors, d'en faire d'autres, c'est vraiment un objectif. On aimerait bien, dès l'année prochaine, pouvoir proposer, pour nous en tout cas, une future édition. À titre personnel, j'en vois, puisque je m'y intéresse aussi. Je trouve que ce n'est pas encore suffisamment relayé, donc je pense qu'il y a encore du travail là-dessus en communication et pour amplifier ces événements. Mais sur Instagram, il y a des comptes comme... Amplify Your Voice, Loader, Chercher la Meuf, etc., qui vont justement parler de ces événements un petit peu partout qui sont proposés.
Et puis, voilà, que ce soit au Stérolux, à Trampo, au Poum Poum Tchak, on va retrouver des événements autour de ce sujet-là, et bien évidemment, qu'il y a le Printemps des Fameuses notamment, j'oublie tous les autres de tête. L'idée, c'était voilà, de proposer, nous, un petit peu notre événement en complémentarité avec les autres. Et je pense que, bon, pour le moment, malheureusement, il n'y en a pas encore assez. On espère qu'un jour, il n'y en aura plus besoin, hein, bien évidemment. Mais voilà, nous, on a voulu aussi proposer notre version, peut-être un peu plus rock aussi, de ce type d'événement.
Oui, et puis on veut que les jeunes filles puissent se dire que c'est possible, que les jeunes musiciennes aussi puissent se dire « vas-y, j'y vais, il y a de la demande en fait ».
D'où les masterclass aussi.
Exactement. Puis c'est un mouvement qui n'est pas moralisateur en fait. Il peut être aussi bien porté par des musiciens que des musiciennes, par des amateurs, amatrices, etc. Donc, il fédère quand même beaucoup les foules.
C'est pour mettre en avant quoi.
Oui.
Et est-ce que pour ce festival, c'est quoi la suite? D'autres dates de prévues, histoire qu'on...
Bon, on va voir. Là déjà, on ne va pas te mentir, hein, on est focalisé sur l'événement qui est dans trois semaines. Donc on aime bien faire les choses au fur et à mesure. Donc il faut déjà que cet événement-là soit une réussite, hein, il faut le dire. Il faut que les gens viennent, notamment sur la partie payante hein, du samedi, qui sert aussi à financer la gratuité des autres jours, hein, parce que ce n'est pas magique, hein, même si on remercie nos mécènes et des partenaires qui nous aident à faire ça. Mais voilà, pour qu'on puisse en faire d'autres, il faut déjà que ça fonctionne. Et ça se passe déjà par ça. On va déjà faire cet événement-là. Et puis ensuite, on essaiera certainement de réfléchir à quelque chose l'année prochaine, avec peut-être des nouvelles idées, en plus des portraits ou des choses comme ça. Ça, les idées, c'est pas ça qui manque.
Non. On est l'avant-dernière date de la tournée More Women on Tour. Le dernier sera le 3 et 4 juin à Paris, au Petit Bain.
Ok, génial. Bah, merci. Beaucoup.
Merci à vous, c'est cool.
Merci pour cette interview et du coup on invite tous nos auditeurs et nos auditrices à aller vous voir. Donc le 15 et le 16 avril au Ferrailleur. Et pour la partie payante et pour la partie gratuite, pour vous soutenir. Et moi, j'espère vous y croiser, parce que je pense que j'y serai.
Nous, on y sera a priori.
Oui, nous, on y sera.
Et merci encore.
Merci
à vous. Merci beaucoup. Vive le rock, vive les femmes, vive vous. On a besoin de vous.
Vive ces initiatives.
François, Marine, Thaïssa, évidemment, ici. C'est l'anniversaire de Maria Carré aujourd'hui. Alors, je me disais, on pourrait peut-être passer une de ses chansons.
On chante ?
Mais non. Non. On va plutôt passer le duo Middleshide, qui est programmé justement pour votre festival More Women on Stage. Et Middleshide. Et c'est parti sur la playlist. Liste de prunes. C'était donc Middleshide avec Hard to Find dans la playlist de Prune. Alors, ne cherchez pas midi à 14h, en fait, il est 18h19 et c'est donc l'heure des chroniques. Alors, effectivement, elle ne sait plus où donner de la tête avec
toute cette actualité bouillante. C'est un peu ses giboulées de Mars à elle. Voici Camilla.
Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
Et oui, aujourd'hui devait avoir lieu la première visite d'État à l'étranger du roi d'Angleterre en France, et qui, de manière totalement imprévisible, a dû être reportée en raison de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Était prévue au programme pour Charles III et Camilla une descente des Champs-Élysées aux côtés d'un Emmanuel Macron au sommet de sa popularité, suivi d'un dîner de gala au château de Versailles dans la Galerie des Glaces, avec, s'il vous plaît, tapis rouge et service en porcelaine et cristal. En un mot, l'art de recevoir à la française. Pendant que les Français, eux, continuent de manifester, malgré les violences policières et les arrestations arbitraires dont s'alarment, entre autres, Amnesty International et le Conseil de l'Europe. Alors, après avoir assuré pendant des jours qu'il n'y aurait aucun problème de sécurité, l'Élysée a fini par faire l'hypothèse que ça aurait été peut-être aller un peu loin dans l'effort d'une reconstitution historique de 1789. On s'en doute, la presse étrangère juge cette annulation humiliante pour Emmanuel Macron. Et nous, on imagine les regrets de Charles et Camilla face à une France toujours prête à offrir une expérience culturelle pleinement immersive, comme on, d'ailleurs ont pu le découvrir jeudi 16 mars deux collégiens autrichiens en voyage scolaire à Paris, et mis en garde à vue, car soupçonnés de faire partie des centaines de dangereux manifestants interpellés ce soir-là, mais pourtant quasiment tous relâchés sans aucune poursuite judiciaire. C'est donc finalement à contre-cœur qu'Emmanuel Macron a dû demander ce week-end à reporter cette visite royale. Car il avait pourtant essayé de montrer sa volonté d'apaisement jeudi dernier pendant son interview au JT de 13h, où dès les premières minutes, il a comparé les manifestations contre la réforme des retraites à l'assaut du Capitole par des militants d'extrême droite pro-Trump en 2021 aux États-Unis. Toujours dans une logique d'apaisement, il a aussi tenu à dire qu'aucune force syndicale ne lui a proposé de compromis, ou encore que jamais les smicards n'ont vu leur pouvoir d'achat autant augmenter, avant de confirmer vouloir continuer à avancer à marche forcée parce qu'il aime la France et les Français. Ouais, au final, le discours de Macron, c'était un peu comme devoir écouter ton ex toxique qui vit dans une réalité parallèle. Tu sais, celui qui t'a fait les pires crasses, mais qui refuse de lâcher le morceau et qui n'arrête pas de répéter « Non, on va rester ensemble, c'est pour ton bien si je te fais souffrir parce que je t'aime. Tu verras, tu finiras par comprendre. » Sans évidemment jamais se remettre en cause. Alors, après ce discours, Macron, il a chargé Elisabeth Borne d'élargir la majorité. Et elle s'est, elle aussi, montrée déjà très convaincante, comme en déclarant au Monde qu'elle était, je cite, « à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles ». C'est vrai que là, pour trouver des soutiens, vraiment, on est sur un argument imparable. Et en même temps, est-ce qu'on ne serait pas un peu d'accord avec elle quand on entend leur déclaration de ces derniers jours ?
On utilisera peut-être à nouveau le 49-3.
Olivier Dussopt.
Il y aura d'autres réformes impopulaires.
Olivier Véran.
Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous.
Elisabeth Borne elle-même. Mais comme toujours, rien n'égale Gérald Darmanin qui justifie des violences policières sous le coup de la fatigue. Bah oui. Ah oui, on a pu le voir samedi à Sainte-Soline, hein, les forces de l'ordre, elles étaient tellement fatiguées qu'elles sont carrément allées se reposer sur des squads. On tirait 4000 grenades en moins de 3 heures qui ont blessé 200 manifestants, dont un qui est toujours entre la vie et la mort.
Aïe.
Bref. En résumé, une stratégie d'apaisement tellement efficace que les services de renseignement prévoient pour demain une mobilisation massive, en particulier celle des jeunes, qui pourrait doubler ou même tripler dans les cortèges. De quoi donner des sueurs froides à l'Élysée. Mais heureusement, les jeunes avec Macron, le mouvement jeunesse du Parti Renaissance, ont la solution pour convaincre les jeunes de ne pas se mobiliser. Une campagne de com' sur les réseaux sociaux rappelant la gratuité des préservatifs mise en place par Emmanuel Macron pour les moins de 25 ans.
C'est vrai.
Alors vous me direz, quel rapport ? Eh bien leur slogan, finement adapté aux enjeux politiques et démocratiques du moment, « Faites l'amour, pas la grève ». Voilà, gênance, comme disent les jeunes, hein. Et puis surtout, bah, verdict demain en manif.
Aïe, 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 ouais, rendez-vous à 10h30 au miroir d'eau pour la manifestation de demain. Thank you so much, Camilla, and God save pas the queen. Voilà, on continue, c'est toujours curiosité. Il n'y a vraiment pas d'heure pour une bonne pause cadeau, et c'est justement le moment. À toi, Lola.
Ouais. ce cadeau.
Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour voir le concert de Cora au TNT. Elle explore différentes ambiances et thèmes existentiels en se concentrant sur la puissance des émotions autant dans ses productions musicales que dans le ressenti du public. Alors, tente de gagner des places en nous envoyant un message sur Instagram de Prune. Et on retourne doucement avec la suite de l'émission et le morceau Exo 7 de Cora. C'est tout de suite sur Prune.
I'm dealing with the time you wanna share. Time will come, time will tell, but until then we'll start breathing again, breathing again. Can we stop the hurricane? You did the drug, will you do it? So by my friend, you seem so far away. Time will come, time will tell, but until then we'll start breathing again, breathing again.
Feels like a treason.
c'était très bien ça. C'était Cora avec Exocet. Alors je vous rappelle, l'Exocet, c'est un poisson des mers chaudes et tempérées, muni de nageoires pectorales développées qui lui permettent de sauter hors de l'eau et de planer quelques instants dans l'air. Et un qui plane beaucoup quand il arrive dans le studio, c'est Enzo pour sa chronique hebdomadaire.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Et oui, vous l'avez sûrement remarqué, et surtout les fans l'ont très bien repéré, le tournage de la saison 12 de The Walking Dead a commencé. Oh, pour cette saison, la production a misé sur la France comme lieu de tournage, et vous avez déjà pu remarquer que le budget décor semble colossal. Poubelles calcinées, bâtiments dégradés, casses, les sacs d'ordures gisent éventrés sur la chaussée, on peut voir des cendres encore fumantes, apocalyptiques, enfin voilà, la saison promet d'être immense, et ça réjouit déjà les fans impatients de découvrir la nouvelle saison. Bien évidemment, je parle des conséquences visibles du durcissement du mouvement de grève contre la réforme des retraites, le 49-3 et la motion de censure rejetée à 9 voix près par l'Assemblée nationale. La mobilisation a pris un nouveau tournant. Un tournant que la majorité redoutait, mais qu'elle a d'une certaine façon attiré, attisé lors de son allocution, comme nous l'a dit Camilla dans le journal de 13h, censé apaiser les tensions. Le président a fait la sourde oreille face à la foule qui réclame le retrait de cette réforme. Et donc l'argument reste le même, et si nous l'avions invité sur ce plateau, il nous aurait dit la même chose, à savoir ce que je veux, et ce que j'ai fait, et je l'assume, c'est une réforme nécessaire. Nous savons que le système actuel, équilibré, ne le sera plus dans 10 ou 20 ans. Ouais. Et voilà, la bombe est jetée. Finalement, ce constat résume le fossé séparant la majorité des revendications de la rue qui ne sait même plus quel slogan brandir pour se faire entendre. Mais cette colère pourrait se traduire par des actions de désobéissance civile. Alors une question se pose, qu'entendons-nous par désobéissance civile? D'où vient donc ce concept? Alors tout d'abord, j'aimerais quand même rappeler que la grève ne relève pas d'un acte de désobéissance civile quand celle-ci est encadrée. Pourquoi ? Eh bien parce que la grève est un droit dans notre démocratie. Mais parfois la colère est telle qu'elle pousse les individus à commettre des actes qui relèveraient de la désobéissance civile quand les actions légales ne suffisent plus. La transgression des lois établies serait donc un moyen de ramener la justice quand celle-ci n'est plus ressentie par les citoyens et les citoyennes. Alors ce concept nous vient des United States of America, les États-Unis, et plus précisément de Henry David Thoreau, philosophe du 19e siècle et inventeur du concept de civil disobedience. Rappelons que l'anglais c'est du français à l'envers. Il invente ce terme grâce à son expérience personnelle. Eh bien, puisqu'en 1846, il refuse de payer l'impôt car il ne voulait pas participer à contribuer à la guerre contre le Mexique en vue de l'annexion du Texas. Et qu'est-ce que ça... Il sera incarcéré puis libéré. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que pour lui, dénoncer les injustices par la signature de pétitions, par le vote, par les discours ne suffisent pas, ne suffisent plus. Il faut s'impliquer soi-même par des actes qui prouvent qu'on ne se compromet pas avec une politique qu'on rejette. Et selon lui, lorsqu'on désobéit, c'est-à-dire lorsqu'on enfreint une loi ou une règle, il faut assumer toutes les conséquences de ses actes, quitte à s'exposer à une condamnation pénale, comme il l'a vécu. Donc on parle de désobéissance civile lorsque des citoyens, traversés par des motivations éthiques, transgressent délibérément, de manière publique, concertée et normalement non violente, une loi en vigueur pour exercer une pression visant à faire abroger ou amender la loi en question par le législateur, donc les parlementaires, comme on l'a vu au début du mouvement, ou à faire changer une décision politique prise par le pouvoir exécutif aujourd'hui avec celui du gouvernement. Alors cette désobéissance civile serait même, selon certains philosophes politiques, nécessaire et doit même être reconnue avec toutes les limites que ça importe. Encore une fois, c'est l'américain John Rawls, dans son ouvrage « Théorie de la justice » en 1971, qui nous dit que la désobéissance civile serait, je cite, « l'un des moyens de stabiliser un système constitutionnel même » si c'est par définition illégal. Le sens donc de la justice commande de désobéir aux lois mêmes dans un souci d'équité. Puisque c'est un acte public, comme on l'a vu, qui vaut à un discours public, il se doit normalement d'être donc non violent. Donc la loi est certes enfreinte, mais la fidélité à la loi est justement exprimée par la nature publique et non violente de l'acte. Puisqu'en fait, le but de la désobéissance civile n'est pas de renverser le système établi, sinon ce serait une révolution, mais de la transformer, de l'améliorer, mais d'une autre manière. Mais il faut être lucide. Macron nous le dirait bien, je reste lucide. Mais il faut être lucide sur le caractère anarchique de la désobéissance civile. Et la philosophe Sandra Laurier explique d'ailleurs qu'il n'y a pas de règle vraiment très claire sur comment revendiquer. Le principe même de la désobéissance civile est de contourner ou bafouer la règle en signe de protestation de l'État en place, mais cela suppose une certaine spontanéité qu'aucune règle ne peut contenir. Il en relève de l'imagination, en fait, de ceux qui désobéissent pour mener des actions efficaces. Donc, d'une certaine manière, tout semble « permis », entre guillemets. D'ailleurs, cette désobéissance civile évolue et fluctue en fonction de comment l'État, le régime ou l'exécutif réagit aux actions commises par des citoyens. On l'a très bien vu avec le mouvement de grève. Les syndicats ont tout d'abord appelé à la mobilisation générale, elle a bien eu lieu. Le mouvement était en règle et dans le droit, c'était pacifique. Malheureusement, le gouvernement est resté sourd à cette contestation, n'acceptant que la loi du nombre, jamais assez important, celle du blocage, jamais assez puissant. À partir de là, c'est l'articulation entre la loi et la rue qui est entrée à son tour en crise, apportant des manifestations sauvages, non encadrées et par des débuts de violence que les syndicats d'ailleurs n'ont pas reconnus. Les symboles forts de la République comme signe de contestation ont été attaqués, comme la mairie de Bordeaux par exemple. Mais alors il faut séparer tout de même les actes de dégradation gratuite et celles qui relèveraient de la protestation et de la défense d'un intérêt citoyen. Néanmoins, la désobéissance civile est parfois liée à la définition même de démocratie comme forme et espace d'expression de la vie citoyenne.
Excellent, merci Enzo. Ce n'est pas une révolte, c'est une désobéissance. Du coup, voilà, c'est le nouveau créneau pour notre siècle à nous. C'est toujours très enrichissant ce que tu fais. J'ai l'impression d'avancer dans la vie avec, ouais, avec ça. Non, mais vraiment. Et donc, pour conclure cette chronique, on va écouter une musique un petit peu voilà, en équation avec, avec cette désobéissance. Et ça s'appelle Attitude by Lewis Hoffman. Excellent, c'était Attitude by Lewis Hoffman dans la playlist de Prune. Il est donc 18h40 et non pas 17h40 sur, comme l'indique l'horloge des studios. Il est grand temps d'accueillir Paloma Colombe avec nous. Bonsoir.
Salut, merci beaucoup de m'accueillir et de nous accueillir.
Oh bah non, ravie. Ravie que tu viennes par chez nous. Et tu es accompagnée de Raphaël qui travaille à Trempeau et vous allez... Nous parler un petit peu de vos projets, de quelques collaborations. Ouais. Et ça va être au micro de ma chère Lisa.
Trop bien.
Curiosité. Portrait de vie.
À la soirée Friction au Centre culturel Trempeau. Et à cette occasion, on accueille Paloma Colombe et Raphaël. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Salut. Alors, Paloma Colombe, vous êtes DJ et artiste associé à Trempeau. Oui. Et quant à vous, Raphaël, eh ben, vous êtes responsable de l'action culturelle pour l'association. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment est-ce qu'elle est née, cette collaboration entre vous ?
Ouais, carrément. Ben, en fait, à la base, j'avais rencontré le programmateur de Trempeau, qui s'appelle Jocelyn. Parce que j'avais mixé au lieu unique avant le Covid. Et c'était la toute dernière date après le Covid. Et puis aussi, je suis tombée enceinte, j'ai eu un enfant. Et donc voilà, toute dernière date avant tout un tas de grands chamboulements. Et c'est vrai qu'on est resté en contact pendant toute cette période. Et un jour, il m'avait proposé, il m'avait dit qu'il cherchait un nouvel artiste associé après Simocel. Et donc après, il y a eu toutes des étapes où voilà, j'ai écrit un mail en précisant un peu mon projet, ce que je pouvais imaginer pour Trempeau. Et puis ensuite, j'ai rencontré toute l'équipe. Et voilà, il y a eu des moments d'échange comme ça avec toute l'équipe, dont Raphaël, sur notamment l'action culturelle. Et voilà, et je crois que ce qui les intéressait, c'était que j'avais un profil où j'étais pas que DJ, où il y avait d'autres choses. Et donc, où du coup, puisque Trempeau, c'est vraiment une association culturelle avec plein de pôles différents, ça pouvait aller dans plein de directions différentes. Et ça pouvait les intéresser autant que moi. Parce que c'est vrai que je suis pas que DJ et que c'est assez réducteur même pour qualifier ce que je fais. J'aime faire plein de choses. C'est comme ça que je m'épanouis aussi. Et du coup, voilà. Du coup, c'est ça, à peu près, Raphaël.
C'est exactement ça. On avait envie de travailler avec quelqu'un sur du long terme.
C'est 2 ans.
Ouais, c'est 2 ans. Et on n'a pas toujours cette chance. Et là, voilà, on a rencontré Paloma. On avait envie que ce soit une artiste femme. Et effectivement, son profil hyper varié nous a inspiré beaucoup de projets de collaboration qu'on va développer après, j'imagine.
Oui, 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 je vous confirme. Alors, on va aussi parler un petit peu de la soirée, du coup, Friction. Du coup, pour laquelle vous participez un petit peu toutes les deux, en tout cas au nom de l'association, à votre façon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment l'idée est venue, comment ça s'est passé ?
Bien sûr. Bah, en fait, dans le cadre de cette collaboration d'artistes associés, pour le moment, pour cette première année, on a identifié 3 pôles principaux de collaboration. Donc il y a le premier pôle qui est l'action culturelle, donc que je fais avec Raphaël, donc vraiment auprès de 3 écoles. Voilà, on pourra en parler après. Le deuxième pôle, c'est celui-là. C'est la programmation d'une soirée à Trempeau. Donc c'est moi qui vais choisir les artistes qui vont mixer ou se produire, parce qu'il y a aussi un live ce soir-là. Voilà. Et puis le troisième pôle, c'est l'aide à la production de mon premier EP. Et donc, tu voulais que je t'en dise plus sur la soirée ?
Oui.
Excuse-moi, je me suis un peu perdue. sur la soirée, du coup, je l'ai à programme. Et donc, je fais venir comme artiste une artiste qui s'appelle S. Diama, Sophia Hamadi, qui fera un live. C'est un live que j'ai découvert parce qu'elle était artiste. Je l'avais vue, elle faisait le tremplin du Printemps de Bourges à Paris. Je l'avais découverte comme ça et je trouve qu'elle a un son vraiment très intéressant, assez unique. C'est son tout premier EP et je trouve qu'elle a trop de talent, donc dès que je peux ou bien passer ses morceaux ou bien la programmer, je le fais. Voilà, c'est une artiste franco-algérienne et là elle vient de sortir un tout nouveau morceau. Le premier est sorti sur Santé Records. Un autre artiste qui s'appelle Caval, qui est un DJ que j'aime beaucoup, dans une vibe très percussive, qui est sur Egrégor, label toulousain. Voilà, il y a Lizzie, du collectif Zone Rouge, du collectif nantais Zone Rouge. Bah, j'adore Zone Rouge. Dès que je peux les inviter, je le fais aussi. Les inviter dans... enfin, j'ai invité Mathilda dans ma première, première édition de ma résidence. J'ai l'impression de parler beaucoup, mais c'est normal, c'est la radio. Okay. Mes premières éditions de ma résidence qui s'appelle Friction à Paris. Au Sacré, donc j'avais invité Mathilda et là j'invite Lizzie, bon j'aimerais toutes les inviter mais à chaque fois je me dis bah là pour cette vibe là, pour cette soirée là, ce serait mieux elle ou... voilà, sachant qu'elles ont toutes vraiment leur univers et leur patte, donc là Lizzie je me suis dit que pour l'ouverture ce serait vraiment parfait et il y a moi qui vais mixer aussi, voilà et aussi dire que c'est les étudiants de l'école de design de Nantes qui sont super investis dans le projet et qui vont faire la création scénique, enfin la scénographie de la soirée Friction. Et ça fait partie aussi des actions qu'on mène avec Trampo.
Donc, sur le quartier Lille de Nantes, oui.
Oui, sur le quartier. Donc on les voit et avec les profs. Et là, on a dû sélectionner un projet parmi 5 projets. Et après, tous les étudiants, ouais, c'était The Voice, un peu le jury. Enfin, c'était pas à l'aveugle, oui, mais on était... non, ils sont sympas, The Voice, t'as pas regardé?
Ah non, ça fait longtemps que
ils sont très sympas maintenant. Je suis assez fan. Et qu'est-ce que je disais? Que voilà, du coup, ils vont faire la scéno et ça va être fou. Enfin, genre, ils font des trucs mais magnifiques, donc ça va être trop beau.
Ah, c'est cool d'avoir ce genre de partenariat du coup qui sont permis avec l'association, j'imagine, du coup, de pouvoir mettre en relation des partenaires comme ça. Et du coup, ouais, comme vous le disiez, il y a eu des éditions à Paris. Vous aviez eu des retours du coup sur le fait que, j'imagine que ça s'est bien passé pour que le concept s'exporte.
Du coup, ouais, il y a eu 2 éditions à Paris qui s'appellent donc les Frictions au pluriel. L'idée, c'est que je veux pousser principalement des femmes ou des minorités de genre, pardon. Et aussi, vraiment, que ça devienne normal, en fait, qu'il y ait une diversité de styles musicaux qui puissent s'exprimer au sein d'une même soirée. Vraiment, l'hybridité, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et voilà. Et donc moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc c'est ça que j'ai envie de faire dans les soirées que je programme. Donc c'est un peu ça, les deux axes. Après, bon, j'ai quand même un gros penchant sur les percussions. Donc il y a quand même énormément de percussions dans ce que je programme. Voilà.
Alors du coup, on va un petit peu s'intéresser à votre activité de DJ. Déjà, comment est-ce que vous avez débuté? Comment vous en êtes venue en fait à faire ça?
J'en suis venue à faire ça parce que, alors à la base c'était pas prévu, parce que dans le sens où j'ai pas fait des études de DJing, je me suis pas dit que j'allais être DJ en fait, j'ai fait plutôt des études de cinéma documentaire, donc je voulais plus réaliser des films documentaires ou être journaliste ou voilà, et en fait j'ai fait un échange universitaire, donc comme Erasmus, mais avec San Francisco. En master en cinéma, ouais, c'était trop cool. J'ai eu de la chance d'avoir cette place-là. Ça a vraiment changé ma vie. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré tous mes colocs, mes potes étaient DJ, collectionneurs de disques, avaient des blogs musicaux. Bon, j'écoutais déjà beaucoup, beaucoup de musique. Ça, c'est un truc depuis que je suis petite, voilà, à la maison, toujours beaucoup de musique et tout. J'aimais télécharger des morceaux, les organiser, les passer dans les booms, c'est vrai. Mais bon, je ne m'étais pas dit que je vais être DJ. Mais là-bas, c'est vrai qu'il y a eu ce truc très, très fun et très, très cool, des soirées que je ne connaissais pas du tout à Paris. Vraiment de la danse, de s'amuser, de sortir. J'ai pris énormément de plaisir dans cette scène-là. Et je me suis fait aucun pote en cinéma globalement, et du coup je suis rentrée à Paris. Bon, j'ai fait un peu de trucs en cinéma, mais en fait assez vite je me suis mise à mixer, à être sélecteur plutôt, sélecta, et voilà, et je bossais dans des bars, des restos, je passais des sons comme ça, je me faisais un peu de sous comme ça parce que c'était toujours beaucoup mieux que d'être babysitter ou serveuse. En fait, je suis devenue DJ dans les endroits où j'étais serveuse. Globalement, c'était ça. Et puis et voilà, et du coup j'ai fait ça mais enfin longtemps, j'ai commencé il y a 10 ans. Donc du coup, j'ai fait ça pendant assez longtemps. Et puis après, il y a un moment, je me souviens, 2017, je me suis dit, bon, bah maintenant, on va essayer de faire que ça. Et après, c'est des rencontres avec des bookers, des gens qui t'aident en fait à construire ta carrière. Tu fais rien seul. Et du coup, voilà, à chaque fois, c'est des rencontres et tu avances comme ça. Et là, ouais, ça fait bah, depuis cette période-là que du coup, j'en vis, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, ça et ce que je fais aussi en lien avec la musique, mais...
Oui, oui, bien sûr.
Enfin, que je ne suis plus vendeuse de fringues dans une boutique, par exemple.
Voilà. On est très contents. Et pour le coup, comment est-ce que vous décririez votre style ? Est-ce que vous avez des influences, bah, par exemple, féminines, du coup, puisqu'on en parle ?
Mon style, bah, je ne sais pas trop, parce que... En fait, à la fois pour les clubs, les festivals, c'est vrai que j'ai un style, mais c'est pas tout ce que j'écoute. Mais je dirais que oui, on peut s'attendre si on vient m'écouter en club ou en festival à quelque chose de très percussif, très une recherche de rythme un peu de l'ordre de la trance. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, il y a des hard drums dans ce que je fais, clairement. Voilà, après j'ai beaucoup de mal moi à définir en termes de style et de genre ce que je fais. J'aime garder une certaine liberté et j'aime aussi beaucoup passer des meufs effectivement qui rappent ou quoi en forme de contrepoint. Je trouve, enfin, ce qui m'intéresse le plus en fait, je crois que c'est l'énergie qu'il va y avoir dans un set plus que quel genre de style musical ça va être. Mais après, pour le coup, j'aime énormément. Quand on me demande de faire un DJ set pour une occasion particulière, je sais pas, récemment j'ai fait un DJ set pour un cours de gym yoga un peu, et j'adore en fait parce que ça me permet de mixer. Là j'ai mixé des trucs un peu plus soulful et tout que j'adore, que j'écoute chez moi beaucoup plus que de la techno par exemple chez moi, enfin où j'écoute moins ça. Ou là mixé à la Manif à Paris, je vais chercher des sons qui vont inviter à la révolte, enfin ou faire un petit contrepoint avec l'actualité. J'aime bien faire des petites recherches comme ça. Ouais, je sais pas, j'aime bien créer des trucs pour des endroits, des situés, faire des DJ sets situés, si on peut dire, je sais pas. Ouais.
Vous prenez des inspirations
une
sur
musique
la...
de contexte, quoi.
Ouais, ouais, trop. C'est ça, ouais.
C'est important.
Moi, j'aime bien.
Nous, on fait des émissions hein, de
contexte. C'est à peu près le même principe.
Il y aura un paloma chaud, peut-être. Oui.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a peu de femmes DJ. Bon, il y en a de plus en plus. Il y a de quoi se réjouir quand même. Ouais. Et j'ai lu d'ailleurs que vous étiez pas mal engagée sur les thèmes du féminisme. Et du coup, bah, en tant que femme DJ, comment est-ce que vous avez vécu votre entrée dans le milieu ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un traitement un petit peu différent ?
Ben, moi, comme je vous disais, j'ai commencé vers 2011, à peu près. Ça a énormément changé depuis, tant mieux. Après, j'étais pas encore dans le milieu des clubs à l'époque. Plus bar, resto. Enfin, si, remarque, hein, j'avais un petit pied, j'ai commencé à avoir un petit pied dans les clubs. Honnêtement, c'était l'horreur. Et heureusement que ça a changé. Enfin, ouais, et c'est clairement mon initiation au féminisme, elle se fait par le biais de ce que je vis en tant que DJ et en tant que femme à l'époque. Hein. Donc voilà, mais par contre, ça change énormément. Et voilà, je suis vraiment ravie de voir qu'il y a de plus en plus de meufs qui mixent. Et donc, je pense qu'on commence à s'y habituer.
Quand vous dites que c'était l'horreur, c'était que vous étiez mal reçue dans les clubs ou on vous refusait on...
Des exemples concrets, des commentaires sur mon physique incessants.
Ah.
Incessants, donc c'est-à-dire incessants, positifs, négatifs.
On vous regarde avant de vous écouter, quoi.
Ah bah ça c'est la base, mais même encore parfois aujourd'hui. Ça c'est la base, donc après pour se faire une légitimité en tant que femme, je pense que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc ouais, ça, effectivement, pas me laisser rentrer en mode, on pensait pas que j'étais la DJ, ça m'est arrivé pas mal de fois.
C'est affreux, ça.
Bah, je sais pas, le nombre de tu mixes bien pour une fille, enfin, je les compte même plus. Je sais pas, tout le temps te comparer aux autres DJ, parce qu'il y a deux meufs, du coup, il faut forcément que tu ressembles à telle autre DJ meuf. Enfin voilà, ce genre. Mais si on s'y arrête, on est mort par contre, donc on est obligé d'avancer. Enfin...
Et faire vous-même avancer les choses.
Ouais, je sais pas trop.
Il y a plein de positifs, sexy, ça s'améliore. Et puis après, s'il y a d'autres exemples, du coup, en fait, c'est vrai que ça se banalise un petit peu. Et puis, c'est bon, passe à autre chose.
Ouais. Mais je pense que j'ai dû oublier des trucs parce que je suis un peu du genre à oublier les trucs pour.
Ouais. Peut-être tant mieux, ça va être de la mémoire tant sélective. Mieux, ouais, voilà. Pas besoin de tout retenir. Du coup, je voulais passer à un autre projet du coup, effectivement, que tu as avec Trampo. Parce que vous êtes en train de réaliser des œuvres sonores, donc avec des enfants d'école de Nantes. Du coup, quel est, c'est quoi le principe du coup? C'est quoi un peu l'objectif du projet?
Alors, c'est un projet à plusieurs volets. On travaille avec deux écoles élémentaires du quartier de l'île de Nantes, donc très proche de Trampo, avec lesquelles on n'avait jamais connecté jusque-là, donc c'est cool. Effectivement, dans une école, l'école Joséphine Baker, on salue l'équipe. Ouais. On bosse avec trois classes, deux classes de maternelle et une classe de primaire. C'est pareil, je le souligne parce qu'il y a peu de projets en fait à destination des élèves de maternelle. Et donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, ils sont venus à Trampo, les invités pour découvrir la structure, les locaux. Ils ont poussé la porte d'un studio et ils ont découvert Paloma qu'ils avaient uniquement entendu jusque-là. Elle leur avait envoyé un message mystère.
Ah.
Ça avait fait monter la sauce un peu. Ils étaient bien excités. Elle a mixé pour eux, ils ont dansé. Ouais. Donc avant même de se parler, en fait, ils ont communiqué par la musique. C'était vraiment cool. Il y a eu un petit échange après. Puis ensuite, elle leur a présenté les enregistreurs numériques qu'on leur a laissés dans les classes. Et ils s'en sont saisis pour faire plusieurs enregistrements. Les tout-petits ont enregistré dans l'école. Les moyens ont enregistré dans le quartier et les plus grands ont enregistré chez eux à la maison des sons de leur quotidien, des interviews de leurs parents. Et là, l'objectif, maintenant, dès demain, c'est de. Ils ont réécouté les sons avec Paloma la semaine dernière et là, dès demain, elle va leur apprendre à monter les sons, si j'ai bien compris.
C'est ça, sur les platines.
Sur les platines, voilà. Donc, on est allé installer le set DJ dans le CDI de l'école.
Ah, génial.
Ils étaient bien, bien excités aussi.
C'est la bibliothécaire qui devait être contente.
Il n'y en a pas. Ouais. Mais voilà, ça c'est avec Joséphine Baker. Et puis avec Aimé Césaire, c'est un peu le même principe. Paloma, elle les a rencontrés plusieurs fois. Et là, elle a confié des enregistreurs aux grandes sections qui vont interviewer des personnes qui représentent la communauté éducative, celles qui fréquentent au quotidien. Donc, le gardien, les dames de cantine, des enseignantes. Et donc, ils vont les interviewer. Et donc ça va créer des petites capsules sonores. Et il y a d'autres élèves, des plus petits, qui, eux, ont créé des instruments qu'on a enregistrés tout à l'heure. Ouais. Le but, ça va être de monter des petits génériques pour le début, la fin de ces petites capsules sonores. Et tout ça sera écoutable sur un temps où on va inviter tous les parents, tous les profs à Trampo le 16 mai prochain. J'ai tout bien dit.
Ah ouais, t'as tout bien dit. Fantastique. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tout, malheureusement, parce qu'après, on va se faire chasser du studio.
Aïe, par Money Time, ils sont là, à côté.
Ça. Mais juste, oui, évidemment, il faut en parler. Mais vous êtes aussi en train de préparer, du coup, votre premier EP.
Ouais.
Qui va.
Oh, c'est le tout début du processus.
Ouais.
Donc, en vrai, je n'ai pas tant de choses encore à dire dessus.
OK.
Parce que, c'est vraiment le tout début. Voilà, on verra.
Mais on a le temps, c'est l'avantage d'être associé à un lieu.
Ouais.
C'est qu'on a 2 ans.
Oui, tout à fait.
Et du coup, est-ce que vous avez un petit mot, du coup, juste pour peut-être inviter les auditeurs
à venir à Friction le 14 avril
ouais. Ils peuvent faire ça
ce serait trop cool. Qu'est-ce que je peux dire que ça va être beau, franchement, parce que ce qu'on a vu là des élèves workshop design, ça va être une scéno vraiment particulière et je sais pas, cinématographique un peu. Donc, j'ai hâte de voir. Et je
à
pense
l'intérieur
que...
et à l'extérieur.
À l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Donc, voilà.
Il faut prendre sa place sur www.trampo.com.
Efficace.
Efficace, c'est ça.
N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir parlé de tous ces projets. Merci. Puis, du coup, prochaine actu, ça sera la soirée Friction le 14 avril prochain à Trampo. Prenez vos places.
Excellent, merci beaucoup, Lisa. Merci pour les questions. Donc, on vient d'apprendre qu'elle a commencé ses premiers pas de DJ dans des booms. C'était le portrait de Paloma.
Vous avez retenu ça.
Merci Raphaël qui représentait Trampo avec l'action culturelle et sociale de la salle de spectacle. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Voilà, oh là, 18h59. Trois choses. N'oubliez pas, si vous voulez réécouter cette émission en podcast, n'oubliez pas aussi qu'on a changé d'heure. Bon, l'avantage, c'est qu'il va pleuvoir une heure de moins. Ça, c'est très important. Et n'oubliez pas, demain il y a une petite manifestation à 10h30 au miroir d'eau. Salut tout le monde, très bon lundi soir, adios l'équipe, Kelly Galarigie, Lola Poscado, Lisa et Taïsia les interviews, Camilla Enzo les chroniques. Excellent, très bonne semaine à tutti.
Merci.